penser davantage.
Allez, viens, la pichotte.
Dit-elle d'un ton caressant, en lui attrapant la main et en la conduisant à petits pas dans la pièce voisine, où elle la fit s'allonger sur une couche épaisse près de la cheminée.
Tu restes ici, la meuno paparello. M'en vais chercher des herbes pour te percura un pao.
Et en effet, la vieille femme revint quelques instants plus tard avec des herbes et des huiles, s'assit à côté d'Aelis et lui prodigua des soins tout en lui disant des mots qu'elle ne comprenait pas. Sur le visage de la jeune fille, éblouie par autant de bienveillance, un sourire se dessina lentement qu'il avait depuis trop longtemps déserté. Et alors Jeannine se mit à chanter tout bas, et sa voix se révéla étonnamment douce. Si douce même qu'à Alice, qu'une nuit de sommeil n'avait certes pas suffi à rétablir, ne tarda pas à s'endormir.
Quenlu, bouillé, bende, Laura. Quenlu, bouillé, bende, Laura. Plantusuna, Gugliado. Plantusuna, Gugliado. Trubo, safeno, alpe del fioc. Trubo, safeno, alpe del fioc. Triste desconsulado. Cessias, mala auto di gozo. Cessias, mala auto di gozo. Te farai un potage. Ambun orabo, ambun caulet. Ambun orabo, ambun caulet. Un olausetto magro. Quan serai morto, enterrazme. Al pius funde la cabo. L'uspes bira azza la paret. La testa la raggiado. Lupe legri in che passaran. Prendran deigo segnado. E di ranqua alles mortai si. A cos la pauro giuano. Se ne zannado al paradis. Se ne annado al paradis. Al se lambe scabros.
Chapitre 66. Le lecteur se souvient sans doute que nous avons plusieurs fois évoqué la personne de Monsieur le frère du roi, Charles de Valois. Et nous arrivons maintenant à un point du récit où il est nécessaire d'en dresser furtivement le portrait. D'emblée, il ne nous semblerait point faire part de partialité en disant que ce Capétien-là, plus que tout autre, était un homme aigri. Comme il était fils et frère de roi, la frustration de n'avoir jamais pu obtenir lui-même ce titre qu'il désirait tant en fit un prince acrimonieux, belliqueux et conspirateur. En tant que seul frère germain de Philippe le Bel, Charles de Valois avait une place de choix au conseil, il lui arrivait même de diriger le Parlement de Paris en l'absence du Capétien. Mais il n'avait pas sur le roi la même influence qu'un Nogaret ou qu'un Marigny. Et il nourrissait d'ailleurs à l'égard de ce dernier une haine profonde, laquelle, il faut bien le reconnaître, ne manquait pas de réciprocité. Si comte de Valois, d'Alençon, de Chartres, du Perche, d'Anjou et du Maine, Charles multipliait les principautés, il n'avait jamais pu accéder à quelque trône que ce fût, bien qu'il eût, par ses nombreux mariages successifs, cherché moult moyens d'y parvenir. Aussi, depuis quelque temps, on le voyait se rapprocher de son neveu Louis, roi de Navarre, fils de Philippe le Bel, et dont tout le monde affirmait qu'il serait le prochain souverain de France. Partant, Charles de Valois s'opposait de plus en plus souvent à son frère, et n'aurait point de cesse qu'il ne fît tomber Enguerrand de Marigny en état de disgrâce. Nous retrouvons maintenant cet homme au large nez et aux cheveux frisés au sortir de son célèbre hôtel de Nesle, à Paris. Vaste résidence flanquée de quatre tours qui lui fut offerte par son frère, lequel l'avait achetée en 1308 à Amaury de Nesle, moyennant la somme de 5000 livres, en récompense des nombreux faits d'armes accomplis par ce comte batailleur. Le voilà donc qui se dirige, accompagné de sa suite, vers le palais